Radio Foot International, Annie Gasnier.
Merci de nous retrouver dans Radio Foot International. Aujourd'hui, nous sommes tous là pour vous parler de football. Ce football paralysé par la propagation du coronavirus. En Italie, le championnat de Serie A est suspendu jusqu'au 3 avril. Et notre correspondant va nous expliquer pourquoi certains craignent même en Italie une annulation de la Serie A. En Espagne, depuis ce matin, et en France, depuis hier, les matchs se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril au moins. Le football de haut niveau est-il faussé lorsqu'il se joue sans public? C'est une question que l'on se posera dans Radio Foot. Un bien mauvais tour pour le PSG, lui qui devra jouer à huis clos face à Dortmund et sans peut-être Kylian Mbappé, qui n'était pas à l'entraînement ce matin encore. Il souffre d'une angine, Kiki. Le huis clos sévira dès ce soir en Ligue des Champions pour les matchs retour des huitièmes de finale. Valence jouera à Mestalla sans son si chaleureux public pour tenter de rattraper un retard de 3 buts. Leipzig qui aura son public, lui, pour garantir sa qualification contre Tottenham de Mourinho. Ce Tottenham battu chez lui au match aller. Enfin, nous évoquerons Manchester United, roi du derby mancunien. Les Red Devils et Solskjaer sont de plus en plus forts en Première Ligue alors que les hommes de Pep Guardiola abandonnent eux peu à peu leur domination totale. Et pour en parler, on va parler de foot anglais. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Il y a aussi dans ce studio Hervé Penaud. Bonjour Hervé.
Bonjour à tout le monde.
Notre ami de l'équipe, tout va bien Hervé?
Oui. On va essayer d'oublier ce coronavirus quand même.
C'est difficile là. Malheureusement, c'est le fil rouge de l'émission aujourd'hui. Il nous envahit chaque jour plus. Bonjour Naïm Moniol.
Salut Annie, salut à tous.
Et puis bonjour Olivier Pron.
Bonjour, moi je viens d'un pays où il n'y a pratiquement pas de coronavirus, comme quoi ces gens-là, en buvant du whisky en Écosse, on évite d'attraper des maladies.
Là, vous savez, quand il y a un Brexit, après, on est loin de tout. Un bonjour, un salut amical à un fidèle auditeur de Conakry qui nous a écrit sur la page Facebook hier. On a beaucoup parlé du Oroya hier dans cette émission, Hervé Penaud. Il s'agit de Marco Damas Sonomi qui nous suit toujours avec fidélité. Radio Foot, c'est parti. Le virus Covid-19, le fameux coronavirus, se répand en Europe et le football est mis comme sous cloche, privé de spectateurs, voire pire, les matchs sont annulés. Les décisions des dirigeants politiques se multiplient. Hier en France, décision que tous les matchs seraient à huis clos, imitée ce matin par l'Espagne, la France et aussi cet après-midi par l'Égypte. Mais la plus lourde décision a été prise hier à Rome par le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte.
Io resto a casa. Ci sarà l'Italia.
Restez chez vous. Toute l'Italie devient une zone protégée. Les restrictions s'appliquent à tout type d'événements sportifs. En ce moment, cela n'a aucun sens de continuer les championnats. C'est valable notamment pour notre Serie A. C'est très triste, mais tout le monde, y compris les supporters, doivent comprendre cette situation. Il n'est même plus permis d'aller dans une salle de sport.
Per ovviamente lo svolgimento di attività sportive.
Restate in casa, c'est le mot d'ordre apparemment que doivent suivre les Italiens à la lettre. Et c'est celui que vous suivez, j'imagine, Matteo Cioffi. Bonjour, vous qui êtes à Milan. Vous êtes enfermé depuis quelques jours déjà.
Oui, depuis quelques semaines désormais.
Quelques semaines, hein, ça commence à faire, à faire beaucoup. Alors Matteo, parlons, essayons de parler de football. Après les quelques matchs à huis clos du week-end, et on se souvient de ce Juventus-Inter qui s'est déroulé vraiment dans un contexte assez bizarre, les tifosi vont devoir apprendre à vivre sans le calcio, ces 60 millions d'Italiens privés de football, mais surtout la Serie A, elle est suspendue en ce moment. Est-ce que on peut craindre que le championnat soit annulé en Italie ou on réagit, disons, au jour le jour, là-bas aussi?
Annie, on peut dire que désormais tout est possible. Pour l'instant, il y a 3 hypothèses que la Fédération italienne de football est en train de considérer. La première, qui est celle de demander à l'UEFA de reporter à une date future l'Euro 2020, ce que souhaitent les clubs italiens qui auront donc plus de temps à leur disposition pour faire jouer les rencontres qui n'ont pas eu lieu et qui n'auront pas lieu d'ici au 3 avril. Deuxième solution, trouver un nouveau calendrier ou placer les matchs qui de façon obligatoire devront se disputer tous les deux jours. Et dans ce cas, la finale de la Coupe d'Italie glisserait au mois d'août avant le début du nouveau championnat. Troisième cas, qui est le pire de tous les scénarios possibles, c'est-à-dire annuler le championnat de Serie A. Serie A qui, une seule fois dans son histoire, a dû recourir à cette décision extrême, c'était en 1915, quand le 23 mai, l'Italie annonçait à son peuple d'avoir pris part à la Première Guerre mondiale.
Oui, effectivement, l'antécédent fait peur. Hervé Penaud, cette généralisation, on va dire, des mesures, et Olivier me signalait que maintenant c'est le Portugal aussi, oui, hein, qui va se jouer ses matchs à huis clos. Est-ce qu'on peut aussi imaginer d'autres solutions? Par exemple, eh ben, c'est supprimer une dizaine de journées ou...
Les reporter.
Ça me paraît compliqué quand même. Hein. Soit un championnat
annulé alors qu'on a déjà eu à peu près 25, 28, 30 journées.
Alors annulé, est-ce qu'il y a possibilité pour certains championnats? Alors, je crois que tous les pays n'ont pas la même règle, mais avoir un vainqueur du championnat après un certain nombre de journées,
bah ça peut arriver. C'est ce que les règlements disent. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, dans la plupart des grands championnats, les règlements disent à l'issue de la dernière journée, mais ne précisent jamais le nombre de journées. C'est-à-dire que par exemple, la Ligue française, et je pense qu'en Italie c'est pareil, il n'y a pas marqué, on détermine le champion, les relégués, à la 38e. On dit à la dernière journée. Ce qui fait que si on arrête, dans des cas extrêmes, comme c'est un peu le cas en ce moment, le championnat à la 30e journée, on partira du principe que la dernière journée est la 30e et on qualifiera les équipes et on relèguera les équipes au classement de la dernière journée, donc en l'occurrence là de la 28 ou la 29e.
Après, l'autre solution serait un report, mais le report, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on joue en juin, en juillet, donc voire en août, on décale.
Non, mais l'obligation.
D'autant plus la reprise de la saison d'après.
Moi, ça me choque pas, ça. Je comprends
mais
pas.
Non, mais je
comprends pas que, parce qu'à chaque fois que c'est évoqué, ça, on dit, mais non, c'est pas possible, etc. Mais pourquoi ce serait pas possible? Pourquoi on pourrait pas tout décaler, quitte à décaler la reprise de la saison suivante en novembre, en fin pourquoi saison. Pas décaler l'euro en septembre? Enfin, moi, ça me choquerait pas. Bon, pour moi, ça serait la meilleure solution.
Il y a d'autres choses. C'est pas qu'une histoire de foot, Bruno. Il y a aussi une histoire de gros sous.
Me dis pas ça.
Il y a une histoire de gros sous. Il y a une histoire de diffuseur. Il y a une histoire de commerce.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on joue les matchs à huis clos plutôt que de les suspendre en attendant que la pandémie, soi-disant, soit finie.
Le problème est,
si c'était vraiment une histoire de pandémie avec une gravité, une dangerosité extrême, on arrêterait
le
tout.
Le problème vaut c'est pour toutes les grandes compétitions, y compris les Jeux Olympiques. Hein. Ouais, je me rappelle cet été.
La logique de faire jouer à huis clos, moi je trouve ça plutôt bien. Ça, c'est une bonne chose, parce que ça évite de prendre du retard, d'autant plus qu'il n'y a pas de lisibilité. Parce que les gens me disent, on peut le repousser. Mais on peut le repousser à quand?
Oui,
qu'on
c'est
on ne sait pas du tout.
Pour l'instant,
pas du
c'est jusqu'au 3 avril en Italie.
Alors, c'est 3 avril, j'entendais un grand épidémiologue en France qui disait qu'il faut compter à peu près 3 mois avant de voir une décrue, si ça se passe dans des comme ça s'est passé en Chine et comme ça peut on peut espérer
ça peut
que ça
dépendre,
se passe. Donc ça voudrait dire 3 mois, c'est mars, avril, mai. Après, il faut pouvoir caser tous ces matchs. Ce qui est sûr dans ces cas-là, c'est que l'euro, il faudrait le décaler. Il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'il vaut mieux finir les championnats. L'euro, on pourra toujours le faire un petit peu plus tard. Mais le problème, c'est qu'il y a de lisibilité sur rien. Mm-hmm. On peut pas savoir. Peut-être que dans 4 mois, vous allez voir une recrudescence d'un coronavirus muté, etc. Donc, on peut pas savoir. Donc aujourd'hui, je pense que.
Il est un peu lié à la
peut,
saison aussi.
Paraît-il, mais tous n'ont pas les mêmes opinions.
Mais après, prenons l'exemple de la finale de la Coupe de la Ligue. Qui est une belle affiche, PSG Olympique Lyonnais, qui est au Stade de France, avec 70 000, presque 80 000 personnes potentiellement. C'est en plus pas anodin, c'est la dernière finale de Coupe de la Ligue. Et vous allez la jouer à huis clos devant personne. C'est un enterrement vraiment phénoménal.
Aucun intérêt.
Pourquoi ne pas la reporter? Alors après, comme elle est qualificative pour la Ligue Europa, il faut la jouer forcément en août au plus tard, de manière à pouvoir envoyer un club
en août. Deux tours préliminaires
qu'à cheval entre juillet.
Donc il faut pouvoir la jouer en juin.
Bien sûr. Mais ou alors on l'annule tout simplement. Ou alors on la joue pas et on redonne une place européenne au 6e, 7e, je sais pas, de Ligue 1.
Enfin, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
Oui, mais la situation exceptionnelle, moi je pense vaut mieux jouer que pas jouer.
Ouais, moi
ça,
je suis d'accord.
Même devant personne.
On va y venir. On va rester encore un instant en Italie, Matteo. Une question qui se posait, on a vu notamment en Italie certains joueurs aller remercier, hein, c'était le cas de la Juventus, eh bien le public qui n'était pas là, mais d'une certaine façon révérencer ceux qui étaient derrière leur poste télé. On pense, comme dit Hervé, ceux qui jouent. Mais si un joueur refuse de jouer en fonction du coronavirus parce qu'il a peur de l'attraper d'autres qui sont sur le terrain et qui l'ont, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
Tout d'abord, c'est son club qui décidera à quoi faire des conséquences. Il y a eu un cas hier car deux joueurs de Cosenza, club qui évolue en Serie B, ont refusé de suivre leur équipe pour le match à Vérone contre le Chievo. Le président du Cosenza a fait savoir qu'il est en train de décider quelles mesures adopter contre ce refus. Mais pour l'instant, pas de nouvelles et très probablement, il n'y en aura pas contre un choix qui paraît tout à fait légitime.
Oui, parce que finalement, c'est ça aussi, jouer contre dans une ambiance, ils allaient se déplacer dans des villes où il y a le virus peut-être plus fort qu'à d'autres endroits. C'est même pas une question de raisonner dans ce cas-là, Hervé.
Non, mais de toute façon, là, il y a même pas.
On voit d'ailleurs les réactions.
Je peux même pas imaginer qu'il puisse y avoir des sanctions contre des gens qui ont peur. Parce que là, ce serait quand même absolument invraisemblable. Même si je pense que dans la majorité des cas, les joueurs de foot, enfin les sportifs de haut niveau, un petit peu moins peur, parce qu'ils ont 20, 21 ans, ils sont pas dans la projection. Moi, quand j'avais 20 ans, je me posais pas spécialement des questions quand on parlait
de... Vous embrasseriez tout le monde.
Bien sûr, H1N1, par exemple, il y a eu H1N1, c'était pourtant il y a pas si lointain. Bon, ça me faisait plutôt sourire. Moi, j'ai connu des gens, dont mon frère, qui ont fait vacciner ses enfants. Moi, je l'ai pas fait. C'était pas quelque chose qui me touchait.
Vous avez bien vieilli, parce qu'il y a pas plus tard qu'il y a 10 minutes, vous refusiez d'embrasser quiconque.
Absolument, parce que je pense qu'il y a un minimum aujourd'hui à faire pour éviter la propagation de ce virus dont on voit qu'il y a des mesures simples à respecter. Donc, il suffit de les respecter. On demande pas des trucs improbables. On demande de faire. Et on se rend compte que la manière dont ça s'est propagé, en Italie notamment, on est parti sur Milan et la région. Maintenant, on est parti sur l'Italie entière.
Ouais.
C'est pas du tout comment les choses ont évolué. Donc, si on peut éviter à son petit niveau, c'est pas énorme de faire ce petit effort, d'éviter cette propagation. Donc, je comprends tout à fait qu'un joueur puisse avoir peur, même si je pense que la majorité des joueurs ne sont pas dans cette logique-là. La preuve, deux joueurs.
Ça peut être important.
Il y a quand même des absurdités. C'est-à-dire qu'on demande aux supporters de ne pas venir assister au match. Alors que des joueurs vont jouer, se toucher, postillonner, etc. Les journalistes, comment faire les journalistes dans un match de Ligue des Champions?
Demain au Parc des Princes, personne à part 5
les conférences de presse sont annulées. Non, mais il y en a dans certains, ils sont acceptés. Le match à huis clos en championnat, vous n'allez pas être accepté?
Si.
En Ligue 1?
À Lyon, oui. Donc, on est accepté vendredi, mais parce que il y a le droit à 1000 personnes. Mais 1000 personnes, ça comprend tout le monde. Donc si vous vous retrouvez à 2,50 m de quelqu'un assis à 2,50 m,
Bruno, les traces, on n'est pas accepté. Pourtant, il y a 1000 personnes.
Les tribunes de presse des stades de Ligue 1 ou de n'importe où en Europe, on est assis côte à côte, voire serré, donc je vois pas.
Oui, même dans les émissions de radio.
L'idée, c'est pas des huis clos. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais l'idée des huis clos, c'est pas d'interdire le. Tu peux pas interdire aux gens de faire leur boulot. Tu minimises.
Voilà, c'est ça.
Si tu veux, en fait, t'es plus dans une démarche de minimiser que de soigner, de réprendre.
Mais là, c'est pas interdire de gens de travailler. C'est de.
En l'occurrence, si on
de freiner, de freiner la propagation.
Oui, mais tu freiner, mais freiner, c'est pas endiguer.
Est-ce que c'est indispensable d'être au stade pour écrire un papier
genre les 15 jours pour commenter un match,
mais c'est pas indispensable.
Le souci avec les supporters,
il y a plein de chaînes de télé.
C'est une évolution de notre métier, mais c'est un autre débat.
Pour ceux qui nous écoutent, faut quand même dire que dans 50% des cas des matchs qui sont commentés par exemple sur les matchs européens, les trois quarts du temps, ils sont devant une télé en cabine. Donc, il ne faut pas dire non plus que c'est indispensable.
Bruno, il y a une différence. Les supporters ne sont pas acceptés dans la globalité parce que tu ne peux pas maîtriser les lieux d'origine et d'appartenance des supporters, alors que tu sais quand même un peu plus d'où viennent les journalistes. Et comme tu ne peux pas trier les supporters parce que ça, c'est discriminant,
donc ça veut dire qu'ils ont moins de chances d'avoir le virus.
De fait, les journalistes.
Mais
bien sûr que si.
Bien sûr que si. C'était très intéressant d'ailleurs à l'équipe du soir il y a quelques jours. Qui disait de toute façon que c'était trop tard. Ça ne sert à rien, les huis clos. On est tous un peu porteurs déjà du virus. Certains, le virus va passer, on ne va pas l'avoir, on ne va pas le garder, et d'autres vont le transmettre. Donc ça n'a plus rien à voir.
C'est aussi ça le problème, c'est qu'on a des versions un peu différentes, et comme les médias ne parlent que de ça tous les jours, on a des versions vraiment opposées.
D'ailleurs, puisque Mathéo est là, moi c'est très étonnant, quelques minutes avant le début de votre émission, Annie, on a reçu ceux qui sont éventuellement concernés, un mail de l'Olympique Lyonnais pour qu'on fasse une demande d'accréditation comme si de rien n'était pour le match Juve-Lyon de la semaine dernière. Alors, elle arrive un peu tard, parce que faut la faire d'ici jeudi, et le match est mardi prochain, et ils précisent bien, on sait pas encore exactement qui aura le droit, mais ils font comme si de rien n'était.
Les jeunes de Lyon sont à Bergame et ils jouent le match de Youth League.
Ouais.
Donc voilà.
Il y a quand même des incohérences.
Justement, Mathéo, les matchs européens, pour l'instant, c'est les seuls qui vont avoir droit de cité sur le sol italien, c'est ce qui était prévu.
Oui, en effet,
J'étais en train de regarder, il y a une dépêche qui vient sortir, qu'il pourrait y avoir une quatrième hypothèse pour le Scudetto, et c'est-à-dire de faire les play-offs. Il n'y a pas trop de détails, mais ça voudrait dire que les quatre premiers clubs au classement joueraient entre eux pour disputer le
tournoi.
Scudetto.
Ce qui n'est pas bête.
Ouais, j'ai quelques doutes parce que honnêtement, si on n'arrive pas à jouer les matchs, qui sera le quatrième? Parce que bon, les trois premiers on les connaît, mais le quatrième un peu moins. Donc pour revenir à votre question, Annie, comme prévu par le décret loi adopté hier soir par le gouvernement italien, les matchs internationaux des clubs italiens pourront se disputer, mais à condition qu'il se déroule à huis clos, et soit en Italie, soit à l'étranger. C'est pour ça que Valence, Atalanta de ce soir, Séville, Rome de jeudi prochain seront interdits au public. Même discours pour Inter, Getafe, toujours jeudi à San Siro, idem Barcelone, Naples dans une semaine. Juve Olympique Lyonnais aura bien lieu à l'intérieur de l'Allianz Stadium, mais dans un contexte de tribune totalement vide. Et pour répondre à Olivier, les journalistes devront rester assis à 2 mètres de distance l'un de l'autre, comme ça s'est passé ce week-end en Italie.
En tout cas, Matteo, il y a eu une photo qui fait le tour des réseaux sociaux qui est très impressionnante. C'est celle des joueurs de Pescara hier soir, c'était en série B aussi, et qui ont joué, la photo est prise, tous les joueurs ont un masque.
Oui, ils sont rentrés sur la pelouse du stade de Benevento en portant un masque antivirus. Joueurs, entraîneurs et médecins de Pescara, tous avec ce masque pour protester contre le déroulement de cette rencontre qui, selon les techniciens de Pescara, Nicola Legrottaglie, n'aurait dû pas se jouer car 13 joueurs de son équipe sont restés à la maison avec la grippe et n'ont pas eu même droit au contrôle au tampon. Donc c'était vraiment protester contre ce choix-là, mais bon, le président de la Ligue de Serie B, qui s'appelle Marco Ballata, il s'en est foutu complètement, il a préféré faire semblant de rien.
Bon,
il a fait donc jouer les équipes.
Et Matteo, donc juste une dernière petite chose, ce soir c'est l'Atalanta qui joue et c'est un peu la planche de salut pour les tifosi, ce soir plus de calcio, donc tout le monde sera derrière l'Atalanta.
Oui, c'est normal. C'est un match qui tombe au moment où le pays est en totale détresse. Les Italiens sont bouclés chez eux, déprimés et beaucoup ont peur. Ce soir, ils seront donc nombreux à regarder la rencontre à la télé. Rencontre qui donc sera suivie avec un esprit certainement un peu plus patriotique au-delà de toute rivalité footballistique. À noter que 1200 tifosi de l'Atalanta qui avaient acheté le ticket ont reversé la somme obtenue avec le remboursement à faveur de l'hôpital principal de Bergame.
Ah ben, beau geste, mais moi, ouais. Ils sont très bien ces supporters de l'Atalanta, on les entendra d'ailleurs tout à l'heure. Merci beaucoup Matteo Cioffi, et comme dirait Francesco Caputo de Sassuolo hier, hein, lorsqu'il a marqué un but, tout ira bien, restez à la maison, c'est le message qu'il a passé à tous les Italiens. Alors on vous le passe aussi Matteo, merci beaucoup.
Merci, c'est gentil.
Et bon courage, Matteo. Une interrogation, messieurs, dans ce Radio Foot, on s'interrogeait ce matin en préparant l'émission. Est-ce que jouer sans spectateur, ça a encore du sens? Ou est-ce que tout est faussé pour vous, Naïm?
Si, ça a du sens quand même. Alors évidemment, c'est moins bien. Parce
vous
que
dites quand même.
Ah oui, quand même, parce que jouer avec les supporters, c'est quand même mieux. Le football, c'est les supporters, c'est le public,
spectacle,
c'est tout ça, c'est
un spectacle. Le sport est un spectacle.
Bien entendu, mais
le sport de niveau
est devenu, en tout cas.
Surtout un huitième de finale de Ligue des Champions, avec de l'enjeu, quand on sait ce que ça implique, individuellement, collectivement. Bien sûr que ça a du sens de jouer, évidemment, mais aucun souci là-dessus. C'est moins bien, mais ça a du sens.
Mais est-ce que ça fausse la compétition, Bruno?
Bien sûr, je vois pas comment on pourrait dire le contraire. Sans supporters, Liverpool ne revient jamais, ne remonte jamais les 3 buts à Istanbul face au Milan AC. Ce qui a fait le déclencheur des joueurs de Liverpool, Steven Gerrard le raconte, c'est qu'à la mi-temps, quand ils sont de vestiaire, ils entendent les supporters de Liverpool chanter, alors qu'ils sont menés 3-0. Mmh. C'est ça qui a été le déclencheur.
Mais avec moi, j'ai assisté. Paris devra marquer un but pour ce
qualifier.
Oui,
mais voilà, d'accord, c'est mais l'influence.
On y vient, Paris.
Comment on peut m'expliquer que Valence à Mestalla, qui est un stade extrêmement chaud, sans leurs supporters, vont pas être handicapés?
Bien sûr.
Mais c'est évident.
Mais ça a toujours. Oui, mais
moi, j'ai assisté à
faire de Bruno, là, pour le coup, vraiment, c'est pas la même chose. J'entendais hier sur une émission, dans une émission chère à Hervé. même le téléspectateur est moins captivé, moins happé. Il y a quelque chose qui manque. On y perd en spectacle. Ça reste du sport, le sport pour le sport, mais le spectacle.
C'est pas le même sport.
Énormément.
Entre dire si que c'est moins spectaculaire, mais ça n'a pas de sens. Pas
si tu as regardé le jeu Inter de ce
week-end, ça n'avait pas de sens.
Si tu as regardé le match Juventus Inter, choc du Calcio. Sans supporters, sans spectateurs. Je suis désolé, ce n'est plus le même sport. Ce n'est plus le même sport.
Et je pense qu'il y a des équipes, effectivement, moi je suis d'accord avec Bruno, sur l'histoire de Liverpool, il y a des équipes. Alors, Paris, on ne sait pas. Est-ce que ça ne va pas être un mal pour un bien? Est-ce que le fait de ne pas avoir de supporters ne va pas leur ôter de l'impression? J'en sais rien, ce club n'est pas comme les autres. Mais bon.
Dans le principe du sport. Justement, vous, ce que vous défendez un peu plus tôt, c'est de faire le dos rond, c'est-à-dire comme toute la société.
Absolument. Donc moi, c'est vrai, ce n'est pas le même sport, ce n'est pas même ci, ce n'est pas même ça. On peut dire ce qu'on veut. Toujours est-il que ce sont les conditions dans lesquelles ils vont jouer. Terminé, ça s'arrête là. Ça reste 11 joueurs contre 11 joueurs avec un ballon de football au milieu.
C'est exactement ça.
C'est aux meilleurs d'être les meilleurs. Et puis s'ils avaient besoin de leurs supporters pour revenir, ils essaieront cette fois de ne pas avoir de supporters et de revenir. Et puis s'ils n'en sont pas capables, c'est que sur le terrain, individuellement ou collectivement, ils n'auront pas été assez forts. Voilà,
mais vous ne pensez pas quand même que les spectateurs, ça porte une équipe?
Mais ça, c'est un fait, là, ce que disait.
Non, mais ça veut dire que s'ils sont éliminés, par exemple, ou s'ils perdent, ça ne veut pas dire que c'est. Il leur a manqué quelque chose. C'est pas que individuellement. Il aura peut-être manqué.
Dortmund aura eu ses supporters à l'aller, Paris ne les aura pas eu.
Donc c'est faussé.
Ils auront peut-être eu leurs supporters, ça c'est une chose, mais enfin, je regrette. Mais quand vous êtes des joueurs du Paris Saint-Germain, j'espère quand même que vous ne tremblez pas parce que vous avez les supporters de Dortmund en face.
Et même Valence.
C'est-à-dire, même Valence. Donc à un moment, vous êtes sur le terrain, c'est du 11 contre 11, c'est une motivation.
Hervé, tu ne peux pas le dire ça. On ne dit pas que les joueurs vont trembler en jouant face à un public extraordinaire. Mais tous les joueurs qui ont subi la pression d'un public adverse, ils le disent. À un moment donné, tu t'entends plus parler, tu sais pas ce qui se passe, tu perds le fil du truc.
Oui, mais alors je peux te donner plein d'occasions.
À plein d'occasions.
Oui, d'accord. Ben, je peux te donner aussi plein de publics incroyables qui n'ont pas soutenu suffisamment leurs équipes pour gagner. Des Galatasaray,
Mais on est d'accord là-dessus. Me dis pas que Liverpool, l'euro match retour face à Barcelone, si Anfield est vide, ils font le match qu'ils ont fait.
Mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et pour moi, le maintien des matchs.
Je défends une position. Dire.
Je l'ai entendu ta position sur les matchs à huis clos. Moi, je suis pas d'accord parce que je pense que le maintien des matchs à huis clos, c'est uniquement des enjeux économiques qui les maintiennent.
Pas que ça.
Parce que c'est pas que des enjeux économiques. Il y a le sportif.
C'est beaucoup des enjeux économiques quand même.
Oui, mais
si Liverpool a l'équipe qu'elle a, c'est parce qu'elle prend de l'argent à droite à gauche pour acheter ces joueurs-là. Sinon, elle les a pas, ces joueurs.
C'est pas que le football.
Ce qui est naïf, Bruno.
Le football de haut niveau, c'est aussi un public. Parce qu'ils font le football, c'est eux qui font ce football.
Si on leur explique, si on explique aux gens.
Et puis c'est l'équité sportive. Et là, il n'y a pas d'équité sportive.
Si, il y a une équité sportive, puisqu'ils jouent tous les deux sans public.
Si vraiment c'était grave, si vraiment c'était si grave que ça, on suspendait les compétitions jusqu'à temps que le virus s'arrête et on reprenait les compétitions.
Le sport, justement, de haut niveau, le sport comme le football, qui est un sport populaire, à un moment, doit s'adapter aux conditions de la société. On ne peut pas dire le football sort complètement du cadre de la société.
Il y a des moments où il y a des périodes graves. Il nous disait que le championnat avait été arrêté en 1915.
Oui, mais pendant la guerre. Vous prenez la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, il y a eu plein de spectacles qui ont existé, il y a eu plein de combats, de matchs de football, etc., où les gens, parce que c'était une sorte de dérivatif, les gens ne peuvent pas aller au stade, mais vous avez combien de personnes qui vont, par exemple, prenons le Parc des Princes, 45 000 en gros, 40-45 000 personnes, mais il y a combien de gens qui vont regarder le match demain ? Qui aurait regardé si tu avais
pas le même plaisir devant ta télé.
Tu prends quand même du plaisir.
Hervé.
Alors toi, tu penses que regarder le match demain.
J'ai regardé Juventus, j'ai pas pris de plaisir.
Le match de demain,
Hervé, ça tombe bien que vous en parliez. Il y avait un geste peut-être à faire, ça les aurait fait connaître et ça aurait peut-être pu occasionner quelques abonnements supplémentaires ensuite. La ministre a demandé à RMC qu'il soit diffusé en clair, justement, vu la situation, et RMC a refusé. Parce qu'RMC se dit, du coup, on va récupérer plein de gens. Sauf qu'RMC, ils ne vont pas récupérer des abonnés pour un seul match.
Là, en l'occurrence, c'est hypocrite. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a 50 000 spectateurs qui ne sont
pas
dans le stade.
Est-ce que ce n'était pas l'occasion de faire le match en clair pour que tout le monde en profite?
Non, mais attendez, on est dans un système économique. RMC, ils ont mis des sommes monstrueuses depuis des années pour avoir le football. À un moment, on leur dit, mais tout le monde va regarder. Alors que vous pouvez récupérer.
Un match. Bon, ça aurait été un geste.
Bon, on verra ça demain. Mais justement, le Paris Saint-Germain jouera demain à huis clos et ça pourrait donner ça.
Ancien gardien d'Angers, Sotoka. Et c'est au fond. Boulard en régie. Écoutez le speaker.
Pour le Racing Club de Lens, du numéro 7.
incroyable. Sotoka. Incroyable, c'est quand même
extraordinaire. Et voilà, vous voyez, ça a quand même plu aux commentateurs qui étaient dans le stade, Bruno. Et c'est vrai que le speaker, eh bien, il a maintenu la tradition de dire le nom du joueur. Et c'était donc le joueur de Lens.
Mais vous savez,
face
moi,
à Orléans, ils ont gagné 1-0.
J'irai même plus loin. Je ne sais plus qui l'a donné l'idée hier soir de demander aux télés de mettre du son, une ambiance de public, de créer une ambiance, une atmosphère.
Ouais,
mais
enfin, ça fait pas partie.
Là, ça fait fake. Là.
Mais Bruno.
Non, ça, c'est pas
Bruno. Faire des films.
Si Bruno, j'étais d'accord, mais là, stop, Bruno.
L'histoire du match, c'est d'être à huis clos.
Et juste une petite chose, je voulais dire sur l'histoire de l'argent.
C'est le creux, c'est du plaisir.
L'histoire, c'est parce qu'il y a trop d'argent en jeu qu'on poursuit des matchs à huis clos. Parce que de toute façon, l'argent, il est là. C'est-à-dire que ce sont des contrats publicitaires qui ont été payés. Donc que vous le passiez aujourd'hui ou demain ou dans un mois, le match, de toute façon, rapportera la même chose.
C'est pour ça qu'RMC aurait pu libérer
le match. Le match rapportera la même chose. 5 millions d'euros de manque à gagner pour le PSG. Ils vont être remboursés.
Non, mais voilà ce que je voulais dire. C'est sauf qu'à partir du moment où vous le faites à huis clos, vous perdez, par exemple, pour parler du PSG, environ 5 millions d'euros. Ce qui prouve donc que c'est pas un problème économique, parce que là, ils perdent 50 millions d'euros.
Alors, juste, les gagner, mais c'est pas le PSG
club parisien
qui a décidé
estime
jouer,
que
hein,
les pertes sont estimées donc à 6 millions d'euros. Sans compter 3500 personnes privées de travail ce jour-là et une cinquantaine de prestataires fragilisés.
En comptant les frais, ce qu'on appelle les pertes directes.
Les traiteurs et compagnie.
Ce qu'on appelle les pertes directes plus indirectes, c'est aux alentours de 10 millions d'euros. Sauf que les clubs qui sont engagés en Ligue des Champions ont des contrats d'assurance qui permettent de rembourser ce que tu perds en cas d'imprévus, c'est-à-dire les pandémies, les attentats, les catastrophes naturelles, tout ça c'est remboursé.
Bon, mais là c'est une catastrophe quoi alors ?
Non, c'est une pandémie, j'attends de voir ça.
Parce que s'il y a 6 matchs à rembourser, j'aimerais bien savoir comment ils vont rembourser.
Bon, on verra ça, on fera les comptes après. Pour l'instant, ça sera donc dans cette ambiance un peu bizarre demain au Parc des Princes que se jouera donc ce match si important pour le PSG face à Dortmund. Les supporters rencontrés, écoutez, par Sarah Lou Bakouche, notre stagiaire, eh bien, ils veulent garder le moral.
Je m'appelle Patrick, on est au Café Les Deux Stades, en face de la porte d'Auteuil, la porte du Parc des Princes, Auteuil. C'était pas une très grosse surprise, mais quand même très déçu. Je sais pas si ça va servir à grand chose. Par rapport à d'autres manifestations qui se font, ou même dans les transports, certains transports qui sont encore ouverts, donc je sais pas. Faut accepter la situation. Ça va être triste là, à l'intérieur, oui, ça va être très triste, mais bon, ça va pas être facile. Je pense quand même qu'ils vont passer, faut être optimiste.
Ici, on se trouve dans le fief du Paris Saint-Germain, au bar Le Perroquet, 56 rue des Plans. Il y a du pour et du contre. Le pour, c'est normal, on va pas prendre des risques pour aggraver plus la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. Le contre, je comprends pas qu'on interdit les supporters du PSG pour un match de foot et qu'on laisse les élections se produire. Vous savez, les supporters, c'est le 12e homme hein, de l'équipe. Hein. Et je pense que le PSG va se qualifier, mais ça aurait été bien pour le prestige d'avoir les supporters, quoi. Allez Paris, ils sont capables, ils l'ont déjà prouvé.
Allez Paris, gardez le moral donc, comme le disaient ces supporters, quand on a l'impression que le sort s'acharne sur le Paris Saint-Germain. Vous avez dû voir tout ce qui tourne sur les réseaux sociaux. Mais signalons-le quand même à ce stade de la compétition, hein, perdu 3 fois ces derniers temps par le PSG.
Pourtant, ils avaient le public avec eux, c'est bizarre. Hein.
Le huis clos, c'est ce qu'a dit Étienne Moati.
Une chose ne veut pas dire l'inverse.
Non, hein. Mais je te le dis quand même. Parce que comme ce n'est pas le même sport, on ne sait jamais. Hein.
J'ai dit que le public a une influence sur les équipes.
On va continuer.
Mais l'inverse, c'est vrai
oui,
aussi.
Mais oh, oui, mais avoir de l'influence ne veut pas dire que le match n'a plus de sens.
Non, mais
je te reprends. Les mots ont un sens, Bruno, justement.
Était assis à votre place hier
et a dit la même chose.
En tout cas, et il y a l'huis clos. Ensuite, il y avait eu le match annulé quand même, le match, on va dire, le dernier de préparation de championnat à Strasbourg annulé pour le Paris Saint-Germain. Et maintenant, c'est peut-être le pire, Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné depuis 2 jours, victime d'une mauvaise angine. Thomas Tuchel, l'entraîneur, écoutons-le, il en a parlé tout à l'heure en conférence de presse.
Kylian est malade, était malade hier et aujourd'hui avec une angine. Et on essaye de faire peut-être un petit peu d'entraînement aujourd'hui, pendant le soir, mais il n'a pas fait d'entraînement avec nous les derniers deux jours. Et on doit attendre et décider demain matin.
Ça sera décidé demain matin, mais évidemment, on prédit déjà que Edinson Cavani pourrait être titularisé. Naïm.
Ce serait quand même un gros coup dur. Là, on pourrait quand même sérieusement commencer à parler. Si en plus vous avez Mbappé qui est pas là, vous dites quand même qu'en huitième de finale, il y a un vrai problème du côté.
Alors d'habitude
du
PSG. On s'inquiétait pour Neymar, et là il faut s'inquiéter pour Mbappé. Alors moi, c'est un coup dur pour le Paris Saint-Germain.
Oui, c'est un coup dur pour le Paris Saint-Germain que Mbappé soit malade. Maintenant, j'ai quand même beaucoup de mal à croire que, vu la situation du PSG, Mbappé ne soit pas aligné demain pour une angine. Il va être certainement gavé d'antibio. Il va être mis au repos peut-être aujourd'hui. Mais je comprends pas comment on peut dire qu'Mbappé jouera pas le match demain. C'est pas un claquage, c'est une angine. Donc bon. Si, moi je pense qu'il va jouer, même sous
conditions. Si on peut pas respirer, si on a les bronches encombrées, quand ça.
Je pense quand même qu'il va être pris en main avec tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer au moins une heure. Je peux pas croire que le PSG se passe d'Mbappé demain.
Hervé, vous y croyez?
Moi, j'en sais rien. Là, franchement, là, c'est un peu comme le coronavirus. On verra ça demain. Hein. Parce que moi, je connais pas tout à fait les symptômes d'une angine. J'en ai peut-être pas eu trop dans ma vie. Donc, est-ce que ça empêche de respirer? Est-ce que ça fatigue? Est-ce que vous avez un état physique complètement fatigué? Donc, ce qui peut engendrer aussi des blessures musculaires. Mm-hmm. Donc, on ne sait pas. Donc là, je me réserve le droit de pas
Joker.
Avoir réponse.
Non, Joker.
Pour être bien clair.
Est-ce que ça peut être un manque? Enfin,
c'est bien pire.
La conséquence pour le Paris Saint-Germain, c'est ça.
Vraiment, il y avait l'histoire du huis clos plus ça, le huis clos, c'est sûr, plus l'absence d'Mbappé. Alors là, à un moment, vous allez vous dire, effectivement, il y a peut-être quand même le mauvais œil sur le Paris Saint-Germain. Ça paraît hallucinant. Alors, l'année dernière, contre Manchester United, il n'y avait rien comme
c'est
mauvais œil.
C'est ce que j'allais dire. J'allais prendre le même schéma que Naïm. En même temps, il était l'année dernière et ils ont été éliminés quand même.
Et l'année dernière,
il n'y avait pas Neymar.
Ouais, mais contre l'équipe bis de Manchester United, il n'y avait personne. Ouais. Vous aviez gagné 2-0 à l'aller. Ouais. Donc, à un moment, vous avez le droit aussi de vous qualifier devant aucun spectateur, et même sans Mbappé, finalement.
Je voulais juste repréciser, pour que ce soit bien clair, les conférences de presse aujourd'hui ont été annulées. Elles le sont pour tous ces matchs à huis clos. Et Thomas Tuchel, si vous l'avez entendu, c'est que ces clubs-là ont des chaînes de télé attachées au club, et donc il a donné une interview. Ce sera le cas sans doute pour Dortmund, pour tous les autres, et ces sons-là, heureusement, qui sont mis à disposition de la presse pour que vous puissiez les entendre.
Et vous n'en entendrez demain, puisque le match aura donc lieu au Parc des Princes à 21h, sans public, sans reporter, sauf donc ceux qui ont le droit de retransmission. Et puis Radio RFI fera une émission spéciale demain que vous ne manquerez pas, avec Christophe Jousset.
Du coup, Moissonnier et moi, on devait commenter le match, on va au Cinoche, on va voir De Gaulle, ça va être super.
Hugo, il sera là. Hugo sera là avec Christophe Jousset, avec Eric Chorin, avec Naïm Moniol. Donc, vous saurez tout sur ce qui se passera au Parc des Princes, et on aura heureusement des écrans de télé. Allez, balle au pied et descendons sur les terrains pour ces matchs retour de ces étranges huitièmes de finale. Hein. On a vu de très nombreux favoris au match aller, malmenés, voire presque éliminé, je dis presque parce qu'il existe toujours donc du suspense. Et il commence dès ce soir ses matchs retour avec deux rencontres, une à huis clos, l'autre avec 40 000 personnes. Alors en Espagne, eh bien c'est ce que disait Matteo, hein, c'est l'Atalanta qui se déplace à Valence sans son public. Le match à suivre pour la beauté du jeu, on va dire, de la DEA, comme on la surnomme, hein, la déesse Atalante, et qui, à l'aller, on s'en souvient, à San Siro, face avec ses supporters, et on se souvient que c'était presque que Bergame qui s'était transposé dans l'enceinte de San Siro, eh bien, cette équipe de l'Atalanta avait pris une sérieuse option.
Gossens sortir dans l'axe sur Ilicic. On aimerait nous l'a donné, le golazo d'Ilicic, inarrêtable. Oh là là, c'est passé là encore un boulevard pour Atzebourg. Va-t-il aller s'offrir le doublé? Est-ce qu'il va s'offrir le doublé? Atzebourg pour le 4-0. C'est une démonstration, ils sont en train de s'envoler, ils sont en train de marcher sur Valence.
Avec de tels supporters, hein. Alors heureusement qu'ils ont pu chanter à l'aller, ça leur restera dans la tête. Ces magnifiques supporters de l'Atalanta, ce petit club qui en est à sa première participation en Ligue des Champions et pour la première fois qui dispute des huitièmes de finale, plutôt bien emmanché, puisque le score a été de 4-1 au match aller. Est-ce que au match retour, Hervé, Valence, qui ne va donc pas compter sur son 12e homme, qui est souvent Mestalla, hein, on connaît l'ambiance de dingue qu'il y a dans ce stade, est-ce que Valence peut faire une remontada à domicile et sans public?
Ils peuvent le faire, oui, parce que ça reste du football. Et puis, rappelons-nous, Barcelone-Paris-Saint-Germain, remontada est toujours possible. C'est quand même une équipe de bon niveau, de très bon niveau, Valence. Mais c'est pas non plus le Valence d'une certaine époque qui était capable de réussir des coups.
Quand même, là, on se souvient qu'ils ont réussi à gagner même à... en Angleterre. Ils avaient été gagnés à Chelsea.
Chelsea. Mais oui, mais ça reste une équipe qui est capable de coups. Maintenant, on a l'impression que c'est Atalanta-Bergame. Alors, je ne sais pas comment ils sont impactés par toute leur histoire. Ça, évidemment, c'est peut-être un petit peu compliqué pour eux. Mais on a l'impression que c'est l'équipe surprise quand même européenne de l'année.
C'est l'Ajax
de l'année dernière, avec des joueurs peut-être individuellement peut-être moins forts, mais collectivement c'est le même niveau. C'est une manière de jouer qui est très très étonnante, beaucoup de jeux, mais c'est l'antithèse quasiment de ce qu'on de ce qu'on pensait du football italien à une certaine époque, je le dis bien parce que ça a beaucoup évolué évidemment. Je les vois pas quand même craquer de cette manière-là, parce que j'ai quand même l'impression d'une équipe sûre de son football. Et quand vous êtes sûr de la manière dont vous jouez, en général, c'est quand même compliqué d'être en difficulté de cette manière-là.
Le problème de Valence, c'est que c'est comme tu dis, c'est une bonne équipe, ça joue bien, mais il leur manque tellement de joueurs, il leur manquait déjà beaucoup de joueurs au match aller, il va leur manquer encore des joueurs au match retour. Paulista est suspendu, il va encore leur manquer Garay, donc c'est-à-dire que derrière, en fait, il va bricoler comme il a un peu fait au match aller une défense en espérant que ça tienne. Le problème, c'est que en face, l'Atalanta, ça a marqué 70 buts en Italie cette saison. C'est très fort. Et je suis pas sûr que Valence puisse, en tout cas, si elle marque des buts, ne pas en encaisser. Donc ça va être, à mon avis, très difficile, au moins de ne pas en encaisser.
Bruno,
honnêtement, j'en sais rien, parce qu'un match à huis clos, ça écrase tellement tout que
on y revient.
Pour prédire ce qui va se passer, c'est compliqué. Parce que dans une remontada, ce qui est important, le plus important, c'est quand même justement la pression du public.
C'est forcément un handicap énorme.
Mais bien sûr, je suis d'accord. Ouais. Mais en même temps...
Enfin, au match aller, ils ont été largement écrasés
par
le jeu, quand même.
Chez eux, il y a 3-0. Olivier, plus facile à faire.
Et on ne sait pas comment réagir, comment une équipe comme l'Atalanta peut réagir face à un match retour, sous la pression, et conserver cet avantage. Ça, on ne le sait pas de l'Atalanta. Tout ce qu'on sait, c'est une équipe qui joue énormément, qui se livre.
Ils ont 3 buts d'avance, ils peuvent rester dans leur moitié de terrain et tuer le match. Hein.
Ils ont raison. Mais c'est pas leur jeu.
Ce qui est sûr, c'est que
son public, Valence, a encore moins de chances d'y arriver.
Tu t'adaptes. Voilà. Mais c'est vrai que son public, c'est moins bien, t'as moins de chances, t'es moins poussé.
Mais
à un moment donné, moi je suis d'accord avec ce que disait Hervé tout à l'heure, c'est 11 contre 11 à un ballon au milieu. Si tu sais faire une passe devant 60 000 personnes, tu sais la faire 100. Si tu sais cadrer une frappe devant 60 000 personnes, tu sais la faire 100. Mais bien sûr que si.
Mais non, il suffit
que si le du foot ne change pas, Bruno. C'est toi qui me dis ça, puis tout à l'heure, on discutait avec les joueurs, tout seul.
Discuter avec les joueurs qui t'expliquent tous pourquoi ils font ce sport-là et pourquoi ils vont si haut, c'est de jouer devant du public, parce que ça les transcende.
Mais
aucune
équipe n'a jamais gagné à huis clos, donc.
Je crois, qu'il va falloir faire une émission cette semaine, et ça va forcément arriver, Annie, où il y aura Habib ou Eric Rabé, des anciens joueurs qui pourraient mieux
qui le disent,
et que eux disent oui ou non, c'est différent,
Personne n'a dit que c'était pas différent. Je te dis que les règles du foot restent les mêmes. Et qu'à un moment donné, si tu sais aligner trois passes devant personne, c'est tout.
Naïm, la question était autour d'une remontada sans public. On passe à autre chose.
La question est d'avoir un supplément d'âme ou pas.
Voilà. En Allemagne, alors, malgré les mesures de santé publique, là aussi, c'est là qu'on voit que tout n'est quand même pas très logique, malgré des mesures de santé publique au niveau national, puisque là-bas aussi le virus s'étend, le match de Leipzig est maintenu avec des spectateurs. D'une manière normale, ont dit les dirigeants. Et pour le RB Leipzig, donc, c'est un bon signe. Une équipe qui avait dominé le match, on s'en souvient, même s'il n'avait marqué qu'un but à Stamford Bridge, face à une équipe de Tottenham un peu contrite, on les avait trouvés, vous nous direz ça, Bruno, et marqué sans doute par les absences. On sait qu'il y avait notamment comme absents Harry Kane et N'Golo Kanté. En tout cas, un but de retard, mais...
N'Golo Kanté, parce qu'il joue à Chelsea.
Pardon, excusez-moi. José Mourinho espère que son...
Sissoko, non?
Il y avait eu pas mal de
Il y a des absents à Tottenham, il y en a un paquet.
Pas mal de blessés. Son était blessé juste avant le match aller dans le dernier match. Oui, c'est vrai que Kanté, un maillot bleu aussi, mais pas le même. En tout cas, un but de retard, mais José Mourinho espère que son équipe saura donc se qualifier, et même dans l'adversité.
Les performances qui restent à jamais dans l'histoire, ce sont les victoires. C'est mon sentiment. J'ai gagné dans tous les clubs et je crois que je vais le faire avec Tottenham. Je ne suis là que depuis 3 ou 4 mois. J'ai récupéré l'équipe dans une situation très difficile et maintenant c'est encore plus compliqué avec toutes les blessures que nous rencontrons. Mais moi, je crois en moi, en mes joueurs, au club, et je crois que pendant mon contrat, je vais aider le club à y arriver. Ce n'est pas moi qui gagne. Moi, j'aide le club, mais c'est aux joueurs de gagner.
To do it. Alors, José Mourinho, le magicien à la baguette, théoriquement, Bruno, c'est vrai que...
S'il est magicien, il a vraiment perdu sa baguette, hein, parce que ça fait longtemps qu'il ne fait plus de magie.
Oui, c'est ce qu'on lit beaucoup aujourd'hui hein, autour de ce personnage. Est-ce que c'est une vraie bonne excuse, les absents et les blessés?
Ah bah lui, ça lui en laisse une, en tout cas. C'est que s'il ne se qualifie pas, il pourra toujours se dire qu'il manquait beaucoup de joueurs. Mais quand on regarde le match aller, Tottenham a quand même plus d'expérience à ce niveau de compétition que
Leipzig.
Ils étaient
juste finalistes l'année dernière.
Et honnêtement, ça se termine à un but d'écart. Il pouvait y avoir 4-0, il n'y avait rien à dire. Donc là, Tottenham, il y a certes l'excuse des absents, parce qu'il en manque énormément et pas n'importe lesquels. Mm-hmm, quand on parle d'Harry Kane et Edmundson, c'est quand même les deux meilleurs attaquants.
Buteurs,
quand on parle de Sissoko, on parle très peu de l'absence de Sissoko depuis le 1er janvier. Mais il était monstrueux la saison passée. C'était sans doute le meilleur joueur de Tottenham. Et il manque énormément dans l'entrejeu. Et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que Mourinho, qui a eu un petit effet quand il est arrivé à Tottenham, un petit peu l'appel d'air, comme on dit toujours quand il y a un changement d'entraîneur, bah là, il a perdu sa magie depuis très longtemps. Parce qu'il
ne se
passe plus rien, en fait, à Tottenham.
Ils sont à 7 points de la 4e place. Donc,
ils sont très, très loin. Il ne se passe rien dans le jeu. Il y a des affaires qui sont en train d'arriver, comme c'est arrivé à Manchester United entre Pogba et Mourinho. Là, il y a l'affaire Ndombele et Mourinho, où il l'a critiqué ouvertement, publiquement, en conférence de presse.
Ça lui permettait d'éviter les critiques sur lui, comme ça.
Oui,
tout le monde a parlé que de ça.
Ce qu'il disait était très juste sur Ndombele. Mais le problème, c'est qu'encore une
fois, je l'ai dit 100 fois l'année dernière. Sur Lyon, donc.
Il le dit en public devant les médias et ça tue un joueur. Voilà, ça marche plus ce ressort-là.
On connaît ses méthodes. Il y a Christophe Galtier, je crois, il s'en souvient. Hervé, ce Tottenham, c'est quand même une pâle copie de l'équipe qui était finaliste l'année dernière.
Mais c'est pas lié à Mourinho non plus.
Je
le dis souvent, mais il faut arrêter de penser que les entraîneurs sont des magiciens. C'est pas parce que vous changez d'entraîneur. Quand il y a des problèmes dans une équipe, c'est souvent structurel. Alors vous pouvez limiter les choses au départ parce que les joueurs sont pas tout à fait concentrés. De la même manière, certains se disent, tiens, les dés sont redistribués, donc si je me montre bien à l'entraînement, j'aurai peut-être une chance de rentrer. Et puis souvent, les nouveaux entraîneurs, ils ont tendance à s'appuyer sur un ou deux joueurs nouveaux. Donc ça fait partie du jeu. Mais après, vous retombez toujours dans vos travers. Mais souvent, c'est très rare les équipes qui changent du tout au tout, du jour au lendemain. On le voit avec Lyon, par exemple, en France. Il y a du mieux, mais c'est pas parfait. Et Mourinho, en plus, il est victime de nombreuses absences. Et en plus, il est victime de ce qu'il est lui-même, son personnage, et sa manière d'être. Avec un effectif qui est bon, mais sans plus.
C'est pas
quand vous riche, voyez individuellement les joueurs, c'est pas terrible. C'est à partir du moment où vous perdez Son,
il doit faire beaucoup mieux avec ce qu'il a sous la main. C'est pas normal que des équipes comme Wolverhampton jouent mieux au football que lui qui a un meilleur effectif, que des équipes comme Sheffield ont des meilleurs résultats que lui avec son effectif, ou que Leicester.
Mais lui ça n'a jamais été le beau jeu, la marque de Mourinho.
Non, mais la force de Mourinho, c'était en quelques semaines, en quelques mois, c'était de créer quelque chose, une espèce d'unité dans le vestiaire où tout le monde partait à la guerre pour lui. Et aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Ils divisent plus qu'ils ne rassemblent.
Naïm, parlez-nous de Leipzig, parce que c'est vrai que Leipzig avait gagné seulement, on dirait, 1-0, mais c'était presque mal payé par rapport à la prestation de cette équipe.
C'est Lloris qui sauve la baraque au match aller. Leipzig, c'est un peu comme l'Atalanta. C'est une équipe qui joue au foot, qui ouvre, qui n'hésite pas à se déséquilibrer, qui a un beau secteur offensif. Alors, on connaît surtout Timo Werner, mais on a le français Nkunku, qui a été formé au PSG, qui fait une année 2020 absolument... assez incroyable, compte tenu de ce qu'il avait montré à Paris. Il y a Poulsen, il y a Forsberg, ça tourne, tout le monde joue, alors tout le monde n'est pas titulaire, ça tourne un peu, mais c'est une équipe qui joue bien, qui se crée des occasions. Après, moi je vais mettre un bémol. C'est vrai que Leipzig part favori, ils ont été gagnés là-bas, ils sont à domicile, mais c'est une équipe qui peut absolument disparaître sur un match. Alors, ils sont capables de très bien jouer
face à Lyon.
Et ils sont capables de très bien jouer face à une très grosse équipe. Mmh. Et puis le week-end qui suit, face à une équipe de faible qualité, complètement disparaître, exploser. Donc, c'est pas totalement mort contre Tottenham. Après, on va pas la faire à l'envers. Évidemment qu'en Allemagne, avec la qualité qu'ils ont, parce que eux, pour le coup, ils ont pas beaucoup de blessés, ils ont un bon banc de touche.
Et ils ont leur public.
Et ils ont leur public. Donc, c'est-à-dire qu'évidemment, Leipzig est favori et on pourrait être amené à avoir un beau match de foot.
Mais là, je suis assez d'accord avec toi sur un plan. C'est-à-dire que c'est une équipe qu'on peut pas toujours très bien lire. Alors, elle a des résultats, des excellents résultats depuis le début. Contre Lyon, ils prennent pas un point. Ils prennent un seul point sur les deux matchs. Mm-hmm. Ils sont battus 2-0 à domicile, donc ce sera un score idéal pour Tottenham. Mais pourquoi? Parce que Nagelsmann, qui est considéré comme l'un des grands entraîneurs d'aujourd'hui,
futur grand,
il a à peine 32 ou 33 ans, mais c'est un type qui joue beaucoup sur les déséquilibres. Il se pose pas la question, c'est à l'allemande pure et dure. Et contre Lyon, ils perdent 2-0 à domicile, mais ils ont un paquet d'occasions. Mm-hmm. Ça, on l'oublie. Werner, comme au match aller contre Tottenham, il a raté un maximum. Ouais. C'est-à-dire que c'est une équipe, tout peut aller dans son sens, mais si offensivement ça passe pas, ils sont jamais à l'abri aussi de prendre des buts. Donc c'est ce qui rend l'affrontement assez palpitant, je trouve.
Allez, on va terminer avec ce derby mancunien qui a eu lieu au cours du week-end.
que c'est bien fait là.
Quel but Martial!
Quelle inspiration géniale!
With a cutely taken free kick, terrific finish by Martial. Manchester United 1, Manchester City 0.
On est pratiquement à 6 minutes de temps additionnel avec des trompes d'eau sabat.
Et pourquoi pas? The strength of McTominay is going to have a shot.
Scott McTominay vient estomaquer Manchester City. Oui, Manchester est rouge. Ultra fort pour exulter.
Superbly executed. Game over.
Le public d'Old Trafford qui chante les louanges de l'entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjær, qu'on a appris à dire ici depuis qu'il est là, pour une victoire donc historique. C'est la première fois depuis 10 ans que Manchester United remporte le derby à l'aller et au retour. Ce n'était donc pas arrivé depuis le départ d'Alex Ferguson. On voit monter en puissance cette équipe qui a eu du mal en début de saison. Victoire donc 2-0 dans une ambiance de fou. Écoutez Anthony Martial parler du public.
Sur le terrain, on s'entendait pas. Parfois, ça nous a peut-être un peu gênés, mais voilà, franchement, c'était une ambiance magnifique. On adore voir les supporters comme ça, et voilà, on a tout fait pour les rendre fiers aujourd'hui, et voilà, on a remporté la victoire, donc tout le monde est content.
Tout le monde est content. Anthony Martial, buteur. Hein, ouais.
Oui, quand il y a du public, comme ça peut aider une équipe.
J'ai fait exprès. C'est Laurent qui m'a dit « Ah tiens, là on parle du public ». On s'est dit « Exactement, c'est le beau contraste ». Bon, sont-ils inarrêtables, ces mancuniens, là? On les voit, ils sont en cinquième place, hein, Olivier.
Non, mais c'est incroyable, parce qu'il y a encore quelques semaines, ils étaient aux fraises, hein, on peut le dire, et on ne les imaginait pas une seule seconde pouvoir encore se mêler à la lutte pour les quatrièmes places, en l'occurrence la place de quatrième, hein, c'est surtout celle-là qui est à leur portée. Hein. Les voilà, comment ?
Peut-être la cinquième, si City et la suspension est confirmée par le TAS, la cinquième
la
place
cinquième sera qualificative. Effectivement, si Liverpool gagne les Ligues des Champions, il y a peut-être aussi quelque chose à faire. Bon, en tout cas, les voilà cinquième à 3 points de Chelsea. Ouais. Quatrième, c'est une remontada aussi à l'anglaise.
Ouais, mais ils profitent d'abord surtout des difficultés des autres aussi, hein, parce que Tottenham n'arrive pas à remonter, Chelsea cette quatrième place.
Mais ils jouent mieux aussi. Ah
oui, non, mais je veux dire, il y a une irrégularité entre Chelsea, sûr. Tottenham, Arsenal, Manchester United qui est terrible. C'est pour ça que c'est encore jouable. Après, sur Manchester United, leur force, et on l'a vu cette saison, c'est dans les matchs confrontation directe contre les équipes du top 7. On dit maintenant top 7 parce que Leicester l'a intégré puis il s'y s'installe. C'est la deuxième meilleure équipe en termes de bilan. Ils ont 20 points en 10 matchs. Liverpool a 25 points. Tous les autres sont très loin derrière. Et c'est la force qu'on sous-estime de Ole Gunnar Solskjær, qui pour beaucoup n'est qu'un peintre, qui n'est pas du tout tacticien, qui est incapable de cap à la carrure pour être sur le banc de Manchester United. Mais il se trouve que face aux grands, face à Guardiola, face à Klopp, face à Lampard, face à Chelsea, il est capable de faire des bonnes choses. Il est capable de faire des très bonnes choses.
Pour une raison bien simple, il n'a pas la carte. C'est-à-dire, quand il est arrivé, tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire sur le banc? Il avait déjà été en Angleterre, rapidement, ce n'était pas assez exceptionnellement, après il est reparti dans son pays, tout le monde s'est dit, il n'a pas le niveau. Donc, comme les résultats sont pas venus, il n'a pas le niveau.
Il était jugé sur le faciès, sur le bilan.
C'est ne pas avoir la carte. Exactement.
Les gens ne regardent pas les matchs, en fait. Parce que si on avait regardé les matchs, et notamment quand il a repris le flambeau de Mourinho, il y a eu des matchs où tactiquement, notamment à Tottenham, où il s'impose à Tottenham, il fait un coup tactique extraordinaire.
Il y a eu aussi Bruno de très mauvais matchs de Manchester United cette saison. C'est un peu le souci d'United, c'est que c'est une équipe qui est capable, là je rejoins Bruno, dans les gros matchs Chelsea, City, de se transcender, d'être ridicule face à une équipe moyenne. Donc c'est une équipe qui est très irrégulière. Pour sa bonne dynamique, ne sous-estimons pas, on en reparlera plus tard, l'arrivée de Bruno Fernandes.
C'est tout ça sans Paul Pogba.
Voilà. C'est une équipe au niveau de son entraîneur.
On ne sait pas. Il faut le suivre sur Instagram parce qu'on a des nouvelles.
Il fait des Instagram à huis clos aussi. C'est très compliqué.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous. Merci à David Finzel et à Laurent Salerno. À demain.